Acte 2. Scène 1. Une autre partie de l'île. Entre Alonso, Sébastien, Antonio, Gonzalo, Adrien, Francisco et autres. Gonzalo, Alonso.
Je vous en supplie, Seigneur, soyez gais. Vous avez, comme nous, sujet d'être joyeux, car notre perte est peu de chose auprès de notre salut. Notre sujet de tristesse se voit communément. Chaque jour, la femme d'un marin, le patron d'un navire marchand, le marchand lui-même, ont juste notre thème de douleur. Mais quant au miracle de notre préservation, bien peu sur des millions pourraient raconter le pareil. Donc, bon Seigneur, mettons sagement la consolation en balance avec le chagrin.
Alonso, paix, je te prie.
Sébastien,
il accueille la consolation comme un potage froid.
Antonio,
le consolateur ne l'en lâchera pas plus vite.
Sébastien,
regardez, il monte l'horloge de son esprit. Dans un instant, elle va sonner.
Gonzalo,
Seigneur.
Sébastien,
un coup.
Gonzalo, Alonso.
Quand tout chagrin qui se présente est ainsi entretenu, savez-vous ce qu'on en recueille?
Sébastien,
des dollars.
Gonzalo,
des douleurs.
À Sébastien.
Vous avez dit plus vrai que vous ne pensiez.
Sébastien.
Vous avez relevé la chose plus adroitement que je ne voulais.
Gonzalo à Alonso.
Ainsi, monseigneur.
Antonio.
Fi, qu'il est prodigue de sa langue.
Alonso à Gonzalo.
De grâce, épargne-moi.
Gonzalo.
Soit, j'ai fini, mais pourtant...
Sébastien bat à Antonio.
Il va encore parler.
Antonio bat à Sébastien.
Un bon pari à faire. Qui de lui ou d'Adrien chantera le premier?
Et Sébastien.
Ce sera le vieux coq.
Antonio.
Ce sera le jeune coq.
Et Sébastien.
Allons, que parions-nous?
Antonio.
Un éclat de rire.
Sébastien.
Je tiens.
Adrien à Alonso.
Quoique cette île semble déserte.
Et Sébastien.
Antonio.
À Sébastien.
C'est bien, vous avez payé.
Adrien à Alonso.
Inhabitable et presque inaccessible.
Sébastien devançant Adrien.
Pourtant.
Adrien à Alonso.
Pourtant.
Antonio.
Il ne pouvait manquer le mot.
Adrien à Alonso.
Le climat doit y être tempéré, subtil et délicat.
Antonio.
La délicatesse va bien avec la tempérance.
Sébastien.
Oui. Et la subtilité, comme il l'a déclaré fort savamment.
Adrien.
L'air nous caresse ici du souffle le plus suave.
Sébastien.
Comme s'il avait les poumons pourris.
Antonio.
Ou comme s'il était parfumé par un marais.
Gonzalo.
Ici se trouve toute chose favorable à la vie.
Antonio.
C'est vrai, hormis les moyens de vivre.
Sébastien.
Il n'y en a pas ou il n'y en a guère.
Gonzalo.
Comme l'herbe paraît vivace et luxuriante, comme elle est verte.
Antonio.
C'est vrai, la terre est jaune.
Sébastien.
Avec un œil de verre.
Antonio.
Il ne se trompe pas de beaucoup.
Sébastien.
Non, il ne se trompe que totalement.
Gonzalo à Alonso.
Mais la merveille de tout ceci, celle qui est presque incroyable.
Sébastien.
Comme beaucoup de merveilles garanties.
Gonzalo.
C'est que nos vêtements, après avoir été trempés dans la mer, gardent néanmoins leur fraîcheur et leur éclat, et sont plus teints à neuf que tachés par l'eau salée.
Antonio.
Si seulement une de ses poches pouvait parler, ne dirait-elle pas qu'il ment?
Sébastien.
Oui, à moins qu'elle n'empochât le mensonge.
Gonzalo Alonso.
Nos vêtements sont aussi frais, ce me semble, que quand nous les mîmes pour la première fois en Afrique au mariage de la fille du roi, la belle Claribel avec le roi de Tunis.
Sébastien.
Ça a été un mariage bien agréable, et nous avons beaucoup de chance au retour.
Adrien.
Jamais Tunis ne fut honoré d'une reine aussi accomplie.
Gonzalo.
Non, depuis le temps de la veuve Didon.
Antonio s'emportant.
La veuve, que la vérole l'étouffe! D'où donc sort cette veuve-là?
La veuve Didon.
Sébastien à Antonio.
Eh bien, quand il aurait dit qu'aînée était aussi veuf, comme vous prenez cela, bon Dieu!
Adrien à Gonzalo.
Veuve Didon, dites-vous? Vous m'y faites songer. Elle était de Carthage et non de Tunis. »
Gonzel à Adrien.
« Cette Tunis-là, monsieur, était jadis Carthage. »
Adrien. « Carthage ?»
Gonzalo. « Carthage, je vous assure. »
Antonio à Sébastien.
« Sa parole est plus puissante que la harpe miraculeuse. »
Sébastien à Antonio.
« Elle a élevé non seulement les murailles, mais les maisons. »
Antonio.
« Quelle est la chose impossible qu'il va improviser maintenant ?»
Sébastien.
« Je crois qu'il va emporter l'île chez lui, dans sa poche, et la donner à son fils, comme une pomme. »
Antonio.
« Dont il sèmera les pépins dans la mer, et fera pousser d'autres îles. »
Gonzalo à Antonio.
« Plaît-il ? »
Antonio.
« À la bonne heure. »
Gonzalo à Alonso.
« Seigneur, nous disions donc que nos vêtements semblent maintenant aussi frais que quand nous étions à Tunis, au mariage de votre fille qui est maintenant reine. »
Antonio à Sébastien.
« Et la plus accomplie qui soit jamais allée là. »
Sébastien.
« Excepté, je vous en supplie, la veuve Didon. »
Antonio.
« Ah, la veuve Didon. Ah oui, la veuve Didon. »
Gonzalo à Alonso.
« Seigneur, mon pourpoint n'était pas aussi frais que la première fois où je le portais. Je veux dire, en quelque sorte. »
Antonio à Sébastien.
« Cette sorte-là était bien pêchée. »
Gonzalo.
« Vous savez, quand je le portais aux noces de votre fille... »
Alonso.
« Vous me bourrez les oreilles de paroles qui sont indigestes à ma pensée. Plutôt ciel que je n'eusse jamais marié ma fille dans ce pays, car c'est en revenant que j'ai perdu mon fils. Et elle, j'en suis sûr, reléguée comme elle est loin de l'Italie, je ne la reverrai non plus jamais. Oh, toi, mon héritier de Naples et de Milan, de quel étrange poisson as-tu fait le repas ?»
Francisco.
« Seigneur, il se peut qu'il vive. Je l'ai vu fouetter les lames sous lui et chevaucher sur leur croupe. Il avançait sur l'eau dont il refoulait les fureurs, opposant sa poitrine aux plus grosses vagues qu'il rencontrait. Il gardait sa tête hardie au-dessus des flots ennemis, et de ses bras forts, ramait lui-même à coups vigoureux vers le rivage qui, penché sur sa base battue de houle, semblait s'incliner pour le secourir. Je ne doute pas qu'il ne soit arrivé vivant à terre.
Alonso.
Non, non, il n'est plus.
Sébastien.
Seigneur, vous pouvez remercier vous-même de cette grande perte. Plutôt que de faire de votre fille les délices de notre Europe, vous avez préféré la perdre au bras d'un Africain, et la bannir ainsi, tout au moins de vos yeux, qui n'ont que trop sujet d'en pleurer.
Alonso.
Paix, je te prie.
Et Sébastien.
Tous, nous nous sommes mis à vos genoux. Nous vous avons importunés de toute manière. Elle-même, cette belle âme, mettant en balance son aversion et son obéissance, ne savait de quel côté du fléau pencher. Nous avons perdu votre fils. Je le crains pour toujours. Milan et Naples ont plus de veuves par suite de cette affaire que nous ne ramenons d'hommes pour les consoler. La faute en est à vous.
Alonso.
À moi aussi la plus cruelle perte.
Gonzalo.
Monseigneur Sébastien, votre franc-parler manque un peu de douceur et d'à propos. Vous frottez la plaie quand vous devriez y mettre un emplâtre.
Sébastien.
Ceci est fort bien dit.
Antonio.
Et très chirurgical.
Gonzalo à Alonso.
Il fait bien vilain temps pour nous tous, monseigneur, quand vous êtes nébuleux.
Sébastien à Antonio.
Vilain temps.
Antonio.
Très vilain.
Gonzalo à Alonso.
Si j'avais la colonisation de cette île, monseigneur.
Antonio à Sébastien.
Il y sèmerait des orties.
Sébastien.
Des bardanes ou des mauves.
Gonzalo à Alonso.
Et si j'en étais le roi, savez-vous ce que je ferais ?
Sébastien à Antonio.
Il esquiverait l'ivresse, faute de vin.
Gonzalo à Alonso.
Dans ma république, je ferais au rebours toute chose. Aucune espèce de trafic ne serait permise par moi. Nul nom de magistrat, nulle connaissance des lettres, ni richesse, ni pauvreté, nul usage de service, nul contrat, nulle succession. Pas de bornes, pas d'enclos, pas de champs labourés, pas de vignobles, nul usage de métal, de blé, de vin, ni d'huile, nulle occupation. Tous les hommes désœuvrés, tous, et les femmes aussi. Mais elles, innocentes et pures. Point de souveraineté.
Sébastien à Antonio.
Et cependant, il en serait le roi.
Antonio.
La conclusion de sa république en oublie le préambule.
Gonzalo.
Tout en commun. La nature produirait sans sueur ni effort. je n'aurai ni trahison, ni félonie, ni épée, ni pique, ni couteau, ni mousquet, ni besoin d'aucun engin. Mais ce serait la nature qui produirait par sa propre fécondité tout à foison, tout en abondance, pour nourrir mon peuple innocent. Sébastien à Antonio.
Pas de mariage parmi ses sujets ?
Antonio.
Non, mon cher, tous fainéants, putains et chenapons.
Gonzalo à Alonso.
Je gouvernerais avec une telle perfection, seigneur, que l'âge d'or serait dépassé.
Sébastien.
Dieu garde sa majesté.
Antonio.
Vive Gonzalo !
Gonzalo à Alonso.
Et me suivez-vous, seigneur ?
Alonso.
Je t'en prie assez. Tu ne me parles que de rien.
Gonzalo.
Je crois volontiers votre Altesse, et je voulais seulement prouver à ces messieurs qui ont les poumons si sensibles et si agiles qu'ils sont toujours prêts à rire de rien.
Antonio.
C'est de vous que nous avons ri.
Gonzalo.
En fait de bouffonnerie, près de vous, que suis-je ? Rien. Vous pouvez donc continuer. C'est toujours de rien que vous rirez.
Antonio.
Quel coup il a donné là !
Sébastien.
C'est dommage qu'il soit tombé à plat.
Gonzalo à Antonio et à Sébastien.
Vous êtes des gentilshommes d'intrépide humeur. Vous enlèveriez la lune de sa sphère si elle y restait 5 semaines sans changer.
Entre Ariel, invisible. Musique solennelle.
Et Sébastien. Oui, certes. Et puis nous irions à la chasse aux chauves-souris.
Antonio à Gonzalo.
Là, mon bon seigneur, ne vous fâchez pas.
Gonzalo.
Non, je vous le garantis, je ne compromets pas si futilement ma gravité. Vous pouvez rire de moi jusqu'à m'endormir, car je me sens déjà tout appesanti.
Antonio.
Allons, dormez en nous écoutant.
Tous s'endorment, excepté Alonso, Sébastien et Antonio.
Alonso. Quoi ? Tous si vite endormis ? Puissent mes yeux ne pas se clore sans clore mes pensées. Je les sens disposés à se fermer.
Sébastien.
De grâce, seigneur, ne repoussez pas l'accablement du sommeil. Il visite rarement la douleur. Quand il le fait, c'est pour la consoler.
Antonio.
Nous deux, mon seigneur, nous garderons votre personne, tandis que vous prendrez du repos, et nous veillerons à votre sûreté.
Alonso.
Merci. Quel accablement étrange.
Alonso s'endort. Ariel sort.
Sébastien. Quelle singulière léthargie les possède.
Antonio.
C'est l'influence du climat.
Sébastien.
Pourquoi ne ferme-t-elle pas aussi nos paupières ? Je ne me sens pas disposé à dormir.
Antonio.
Ni moi. Mon esprit est allègre. Ils sont tous tombés comme d'un commun accord. Ils ont été comme abattus d'un coup de foudre. Quelle chance, digne Sébastien. Oh, quelle chance.
Assez. Et pourtant, ce me semble, je vois sur ta face ce que tu devrais être.
L'occasion te parle, et ma forte imagination voit une couronne se poser sur ta tête.
Sébastien.
Voyons, es-tu éveillé ?
Antonio.
Est-ce que tu ne m'entends pas parler ?
Sébastien.
Si fait, mais à coup sûr, c'est le langage du rêve que tu parles tout éveillé.
Qu'est-ce que tu as dit ?
Étrange repos de dormir ainsi, les yeux tout grands ouverts. Être debout, parler, remuer, et pourtant dormir si profondément.
Antonio.
Noble Sébastien, tu laisses ta fortune dormir, ou plutôt mourir. Tu fermes les yeux, toi, tout éveillé.
Sébastien.
Toi, tu ronfles distinctement.
Tes ronflements ont un sens.
Antonio. Je suis plus sérieux que d'habitude. Tu dois l'être aussi si tu m'écoutes. Fais-le, et tu triples ta grandeur.
Sébastien.
Bien. Je suis une eau stagnante.
Antonio.
Je ferai monter ton flot.
Sébastien.
Fais-le, car ma paresse héréditaire le dispose à reculer.
Antonio.
Oh, si vous saviez combien vous caressez mon projet par votre raillerie même, combien en le déshabillant vous le parez.
Les hommes qui reculent sont bien souvent entraînés au fond de l'abîme par leur crainte ou par leur paresse. Sébastien.
Je t'en prie, poursuis. La contraction de tes yeux et de tes joues annonce que quelque chose va sortir de toi. Mais en vérité, l'accouchement est fort pénible. Antonio. Voici, monsieur. Montrant Gonzalo. Quoique ce seigneur au faible souvenir, sa mémoire sera moins bien conservée encore quand il sera enterré. Et tout à l'heure, car c'est un esprit persuasif par état, presque persuadé au roi que son fils est vivant, il est impossible que le prince ne se soit pas noyé, comme il est impossible que cet homme endormi là nage.
Sébastien.
Je n'ai pas l'espoir qu'il n'ait pas noyé.
Antonio.
Oh, quel immense pouvoir est pour vous ce défaut d'espoir! Il y a dans ce désespoir un espoir si élevé que l'ambition elle-même ne peut pas le dépasser du regard, et doute même de l'atteindre. M'accordez-vous que Ferdinand est noyé?
Sébastien.
Il ne l'est plus.
Antonio.
Alors, dites-moi, quel est le plus proche héritier de Naples?
Sébastien.
Claribel.
Antonio.
Elle qui est la reine de Tunis, elle qui habite 10 lieues par-delà une vie d'homme, elle qui, à moins d'avoir le soleil pour courrier, car l'aube de la lune est trop lent, ne peut avoir de nouvelles de Naples avant qu'un menton nouveau-né soit assez rude pour le rasoir. Elle, que nous n'avons quittée, que pour être tous engloutis par la mer, sauf quelques échappés, destinés à figurer dans un acte dont le prologue est ce qui s'est passé et dont le dénouement futur dépend de vous et de moi.
Sébastien.
Que signifie ce fatras? Que voulez-vous dire? Il est vrai que la fille de mon frère est reine de Tunis, qu'elle est aussi l'héritière de Naples et qu'entre ces deux pays il y a une certaine distance.
Antonio.
Une distance dont chaque coudée semble crier. Comment cette Claribel nous franchira-t-elle pour retourner à Naples? Qu'elle reste à Tunis et que Sébastien s'éveille. Supposez que ce fût la mort qui les eût saisis. Eh bien, ils n'en seraient pas plus mal qu'ils ne sont.
Montrant Alonso.
Il y aurait quelqu'un pour gouverner Naples aussi bien que ce dormeur, et des seigneurs pour jaser aussi abondamment et aussi inutilement que ce Gonzalo. Je pourrais moi-même faire une pie aussi profondément bavarde.
Oh, si vous portiez une âme comme la mienne, comme ce sommeil servirait à votre avancement.
Me comprenez-vous?
Sébastien.
Oui, il me semble.
Antonio.
Et avec quelle satisfaction accueillez-vous votre bonne fortune?
Sébastien.
Je me souviens que vous avez supplanté votre frère Prospero.
Antonio.
C'est vrai. Aussi voyez-vous comme mes vêtements me vont bien. Beaucoup plus élégant qu'auparavant. Les sujets de mon frère étaient mes égaux alors. Ce sont mes gens à présent.
Sébastien.
Mais votre conscience?
Antonio.
Ah, monsieur, où placez-vous ça? Si c'était une engelure, elle me retiendrait dans mes pantoufles. Mais je ne sens pas cette divinité-là dans mon cœur. Y eût-il 20 consciences de glace interposées entre Milan et moi? Elle fondrait avant de me gêner. Ici, j'ai votre frère. Il ne vaudrait pas mieux que la terre où il repose s'il était en réalité ce qu'il est en apparence. Je puis, avec 3 pouces seulement de cet acier obéissant, le mettre au lit pour toujours. Tandis que, faisant de même,
montrant Gonzalo,
vous pourriez fermer à jamais les yeux de ce vieux débris, de ce sire prudence, qui alors ne nous reprocherait pas notre procédé. Quant à tous les autres, ils accepteront notre aspiration comme un chat boit du lait. Ils marqueront la minute à toute affaire dont nous déclarerons leur venue.
Sébastien.
Ton exemple, cher ami, me servira de précédent. Comme tu as obtenu Milan, je gagnerai Naples. Tire ton épée. Un coup t'affranchira du tribut que tu paies, et moi, le roi, je t'aimerai.
Antonio.
Dégainons ensemble. Et quand je lèverai le bras, vous faites de même. Et tombez sur Gonzalo.
Sébastien.
Oh, un mot encore. Il se parle à l'écart.
Musique.
Rentre Ariel, invisible.
Ariel.
Mon maître a prévu par son art le danger qui menace ici ses amis, et il m'envoie, autrement son projet périrait, pour leur sauver la vie.
Il chante à l'oreille de Gonzalo.
Tandis que vous gisez ici ronflant, la conspiration a l'œil ouvert et choisit son moment. Si de la vie vous avez souci, secouez ce sommeil et prenez garde. Éveillez-vous, éveillez-vous.
Antonio.
Allons, dépêchons-nous tous deux.
Gonzalo.
« Bons anges, sauvez le roi !»
Tous s'éveillent.
Alonso. « Eh bien, qu'y a-t-il ? Hola, éveillez-vous ! Pourquoi ces épées nues ? Pourquoi cette mine spectrale ? »
Gonzalo.
« De quoi s'agit-il ? »
Et Sébastien.
« Tandis que nous tenions ici veillant sur votre repos, nous venons d'entendre comme une explosion sourde de cris de taureau, ou plutôt de lion. Est-ce que ce bruit ne vous a pas réveillé ?
Il a frappé mon oreille épouvantablement. »
Alonso.
« Je n'ai rien entendu. »
Antonio. « Oh, c'était un vacarme à effrayer l'oreille d'un monstre, à faire un tremblement de terre. Pour sûr, c'était les rugissements de tout un troupeau de lions. »
Alonso.
« Avez-vous entendu, Gonzalo ?»
Gonzalo.
« Sur mon honneur, seigneur, j'ai entendu un bourdonnement, et très étrange encore, qui m'a réveillé. Je vous ai secoué, j'ai crié. Comme mes yeux s'ouvraient, j'ai vu leurs épées tirer. Il y avait du bruit, c'est la vérité. Le mieux, c'est de nous tenir sur nos gardes, ou de quitter cette place. Tirons nos épées. »
Alonso.
« Ouvre la marche, et faisons de nouvelles recherches pour trouver mon pauvre fils. »
Gonzalo.
« Le ciel le préserve de ces bêtes féroces, car pour sûr, il est dans l'île. »
Alonso.
« Marche !» Ariel à part.
« Prospero, mon maître, saura ce que j'ai fait.
Allons, roi, va sain et sauf à la recherche de ton fils. »
Ils sortent.
Scène 2. Une autre partie de l'île, bruit de tonnerre, entre Caliban avec une charge de bois.
Caliban.
Que tous les miasmes que le soleil aspire des fondrières, des marais, des bas-fonds, tombent sur Prospero et fassent de lui une plaie épaisse d'un pouce. Ses esprits m'écoutent, et pourtant il faut que je le maudisse. Eux ne voudraient pas me pincer, m'effrayer de leur mine de hérisson, me plonger dans la mare, ni m'égarer par des feux follets dans les ténèbres, sans que Prospero le leur ordonnât. Mais, pour la moindre vétille, ils les lancent sur moi, tantôt sous forme de singes qui me font la grimace en grinçant, et me mordent ensuite, tantôt sous forme de porc-épic, se roulant sur la route où je vais pieds nus, et dressant leurs pointes sous mes pas. D'autres fois, je suis tout étreint par des serpents, qui, avec leur langue fourchue, me sifflent à me rendre fou. Tenez, justement, là !»
Entre Trinculo.
Voici un de ces esprits. Il vient me tourmenter pour avoir apporté mon bois si lentement. Jetons-nous à plat ventre. Peut-être ne me remarquera-t-il pas.
Trinculo.
Il n'y a ici ni buisson ni arbrisseau pour se mettre à l'abri. Et voici un nouvel orage qui se brasse là-haut. Je l'entends chanter dans le vent. Ce nuage noir, ce gros là-bas, ressemble à une sale barrique qui va répandre sa liqueur. Si elle tonnait encore comme tantôt, je ne sais pas où je cacherais ma tête. Ce nuage ne peut manquer de tomber en plein seau.
Il heurte Caliban.
Qu'avons-nous là ? Un homme ou un poisson ? Mort ou vif ?
C'est un poisson.
Il sent le poisson. Une odeur rance de vieux poisson. C'est une espèce de cabillaud, qui n'est pas des plus frais. Un étrange poisson. Si je retournais en Angleterre, j'y suis allé une fois, et que juste ce poisson ne fût-ce qu'en peinture, il n'y aurait pas de badaud de la foire qui ne me donnât sa pièce d'argent. Dans ce pays-là, ce monstre ferait un homme riche. Toute bête étrange y fait un homme riche. Ces gens-là ne donneraient pas un denier pour secourir un mendiant boiteux, et ils en donneraient 10 pour voir un Indien mort. Il a des jambes comme un homme.
Et il a des nageoires comme des bras.
Chaud, ma parole.
Je renonce maintenant à mon opinion. Je la lâche. Ce n'est pas un poisson, mais un insulaire que tantôt le tonnerre aura frappé.
Il tonne.
Hélas, voilà l'orage qui revient.
Ce que j'ai de mieux à faire est de me fourrer sous sa souquenille. Il n'y a pas d'autres abris aux alentours.
Il se fourre sous la casaque de Caliban.
Le malheur donne à un homme d'étranges compagnons de lit. Je vais m'ensevelir ici, jusqu'à ce que l'orage ait jeté sa lie.
Entre Stefano, chantant une bouteille à la main.
Stefano.
Je n'irai plus en mer, je veux mourir ici, à terre.
C'est un air fort graveleux à chanter aux funérailles d'un homme, mais voici qui me réconforte.
Il boit. Le patron, le balayeur, le bosseman, et moi. Le canonnier et son aide, nous aimions Maul, Meg, Marianne et Marjorie. Mais aucun de nous ne se souciait de Kate, car elle avait la langue pointue. Elle criait au matelot « Va te faire pendre !»
elle n'aimait pas la saveur du goudron ni de la poix. Mais un tailleur pouvait la gratter, ça la démangeait. « Allons en mer, enfant !» Et qu'elle aille se faire pendre. C'est un air graveleux, décidément. Mais voici qui me réconforte. Il boit.
Caliban.
Ne me tourmente pas. Hola !
Stéphane.
Qu'y a-t-il ? Avons-nous des diables ici ? Est-ce qu'on nous joue des farces avec des sauvages et des hommes d'Inde ? Ah, je n'ai pas esquivé la noyade pour m'effrayer maintenant de vos quatre pattes.
Car il a été dit... L'homme le plus convenable qui ait jamais marché à quatre pattes ne le fera pas reculer.
Et on le dira encore tant que Stéphano respirera par les narines.
Caliban.
L'esprit me tourmente. Hola !
Stéphano.
C'est quelque monstre à quatre pattes de l'île qui aura, je suppose, attrapé une fièvre ? Ou diable a-t-il appris notre langue ? Je vais lui donner quelques secours, ne fût-ce que pour ceci. Si je puis le rétablir, l'apprivoiser et l'emmener avec moi à Naples, ce sera un présent digne du plus grand empereur qui ait jamais foulé du cuir de veau.
Caliban à Trinculo.
Ne me tourmente pas, je te prie. J'apporterai mon bois plus vite.
Stéphano.
Il a une attaque à présent? Il n'est pas des plus sensés dans ce qu'il a dit.
Il tâtera de ma bouteille. S'il n'a jamais bu de vin jusqu'ici, ça contribuera à lui faire passer son attaque. Si je puis le rétablir et l'apprivoiser, je ne le vendrai jamais trop cher. Il remboursera celui qui le prendra, et largement. Caliban à Trinculo.
Tu ne me fais encore que peu de mal, mais tu m'en feras. Tout à l'heure, je le sens à ton tremblement. Voilà Prospero qui agit sur toi.
Stéphane à Caliban.
Avancez. Ouvrez la bouche.
Voilà qui va vous délier la langue, mon chat.
Ouvrez la bouche. Ça va secouer vos secousses.
Je peux vous le dire. Et rudement encore.
Vous ne connaissez pas l'ami qui vous arrive. Rouvrez donc les mâchoires.
Trinculo.
Je crois reconnaître cette voix. Si c'était...
Mais non, il est noyé. Et ce sont des diables.
Hola, au secours!
Stéphane.
Quatre pattes et deux voix. Un monstre tout à fait délicat. Sa voix de devant lui sert à dire du bien de son ami. Sa voix de derrière à lâcher de sales mots et à injurier. Quand tout le vin de ma bouteille serait nécessaire à son rétablissement, je guérirai sa fièvre. Approche. Amen. Je vais en verser dans ton autre bouche.
Trinculo, reconnaissant Stéphano.
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 Comment ? Ton autre bouche m'appelle ? Miséricorde. « Miséricorde ! C'est un diable, et non un monstre. Je vais le laisser là. Je n'ai pas une longue cuillère, moi. »
Trinculo.
« Stéphano ! Si tu es Stéphano, touche-moi et parle-moi. Je suis Trinculo. N'aie pas peur, ton bon ami Trinculo. »
Stéphano.
« Si tu es Trinculo, sors de là. Je vais te tirer par les jambes, les moins grosses. S'il y a ici les jambes de Trinculo, ce sont celles-là. » Tu es Trinculo même ? Sur ma parole ! Comment te trouves-tu être le siège de ce veau de la lune ? Est-ce qu'il vante des Trinculos ?
Trinculo.
Je l'ai cru tuer par un coup de tonnerre. Mais tu n'es donc pas noyé, Stéphano ? J'espère bien à présent que tu ne t'es pas noyé.
L'orage est-il passé ?
Je me suis caché sous la souquenille de ce monstre mort par peur de l'orage. Tu es donc en vie, Stéphano ? Oh, Stéphano ! Deux Napolitains sauvés.
Stéphano.
Je t'en prie, ne tourne pas autour de moi. Mon estomac n'est pas très ferme.
Caliban.
Ce sont des êtres bien beaux, si ce ne sont pas des esprits. Voilà un brave dieu qui porte une liqueur céleste. Je vais me mettre à genoux devant lui.
Stéphano à Trinculo.
Comment as-tu échappé? Comment es-tu venu ici? Jure-moi sur cette bouteille de me dire comment tu es venu ici. Moi, je me suis sauvé sur une barrique de vin de Canaries que les matelots avaient jetée par-dessus le bord. J'en jure sur cette bouteille que j'ai faite de mes propres mains avec des écorces d'arbres depuis que j'ai été jeté à la côte.
Caliban.
Je veux jurer par cette bouteille d'être ton fidèle sujet, car cette liqueur n'est point terrestre.
Stéphano à Caliban.
Tiens, jure.
À Trinculo.
Maintenant, comment t'es-tu sauvé ?
Trinculo. Mon brave, j'ai nagé jusqu'à terre, comme un canard.
Je sais nager comme un canard.
J'en jurerais.
Stefano, lui présentant la bouteille.
Tiens, baise le Saint-Livre. Quoique tu saches nager comme un canard, tu es fait comme une oie.
Trinculo.
Oh, Stefano, en as-tu encore ?
Stefano.
Toute la barrique, mon cher. Mon cellier est au bord de la mer, dans un rocher où est caché mon vin. Eh bien, veau de la lune, comment va ta fièvre ?
Caliban.
Est-ce que tu n'es pas tombé du ciel ?
Stefano.
De la lune, je t'assure. J'étais dans le temps l'homme de la lune.
Caliban.
Je t'y ai vu et je t'adore. Ma maîtresse t'a montré à moi, toi, ton chien et ton fagot.
Stefano lui présentant la bouteille.
Allons, jure-moi ça. Baise le livre. Je vais y faire tout à l'heure des nouvelles additions. Jure.
Trinculo.
Par cette bonne lumière, voilà un monstre bien naïf. Moi, effrayé de lui. Un monstre si imbécile. L'homme de la lune. Pauvre monstre crédule. Bien avalé, monstre, en vérité.
Caliban à Stefano.
Je veux te montrer toutes les parties fertiles de l'île et te baiser les pieds. Je t'en prie, sois mon dieu.
Trinculo.
Par le jour, c'est le plus perfide et le plus ivrogne des monstres. Quand son dieu dormira, il lui volera sa bouteille.
Caliban à Stefano.
Je veux te baiser les pieds et jurer d'être ton sujet.
Stefano.
Avance alors. À terre.
Et jure. Trinculo.
Je rirai jusqu'à mourir de ce monstre à tête de roquet. Oh, le vilain monstre. J'aurais presque envie de le battre.
Stefano à Caliban.
Tiens, baise.
Trinculo.
Mais que ce pauvre monstre est ivre. L'abominable monstre.
Caliban.
Je veux te montrer les bonnes sources, te cueillir des baies, aller à la pêche pour toi et te procurer tout le bois nécessaire. Peste soit du tyran que je sers. Je ne lui porterai plus de fagot. C'est toi que je suivrai. Toi, homme merveilleux.
Trinculo.
Oh, le risible monstre. Faire une merveille d'un pauvre ivrogne.
Caliban.
Je t'en prie, laisse-moi te mener où croissent les pommes sauvages. Je veux de mes ongles longs te déterrer des truffes, te montrer un nid de jais, t'apprendre à attraper le lest marmousé. Je veux te mener au bouquet de noisettes et t'apporter parfois de jeunes mouettes du rocher. Veux-tu venir avec moi ?
Stefano.
Je t'en prie, ouvre la marche sans ajouter un mot.
Trinculo,
le roi et tout notre monde étant noyés, c'est nous qui hériterons ici.
À Caliban.
Tiens, porte ma bouteille. Camarade Trinculo, tout à l'heure, nous la remplirons de nouveau.
Caliban, chantant d'une voix avinée.
Adieu, mon maître, adieu, adieu.
Trinculo.
Que ce monstre hurle, qu'il est ivre.
Caliban.
Je n'aurai plus à faire de vivier pour le poisson et à chercher du bois pour le feu. Au premier commandement, à essuyer les assiettes, à laver les plats. Ban, ban, ca, Caliban, un nouveau maître. Que Prospero trouve un autre homme. Liberté, gay, gay, liberté, liberté, oh, gay, liberté.
Stefano.
Oh, le brave monstre. Marche en avant.
Il sort.